Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence qui est à destination des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux. Donc nous allons aborder pendant 45 minutes le sujet de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc cet index concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés et doit être publié tous les ans avant le 1er mars. Il vous reste donc un petit peu moins d'un mois pour respecter vos obligations en la matière. Avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique. C'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats qui vont vous faire gagner un temps précieux puisque vous n'aurez qu'à les personnaliser. Et enfin, cet abonnement vous donne accès également à une équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant gratuitement votre première question à nos juristes. Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Rosine de Matos, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. En effet, elle avait animé avec nous notre première webconférence de l'année sur les négociations annuelles obligatoires. Et ma collègue est en train de vous transmettre actuellement le lien pour accéder à la vidéo de cette webconférence si vous souhaitez la visionner. Donc bonjour à vous, maître, et merci d'être parmi nous.
Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce thème passionnant qui est celui de l'index égalité homme-femme. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire et on ne risque pas de s'ennuyer.
Non, en effet. Alors, pour ceux qui participent régulièrement à nos webconférences, vous savez que nous sommes très attachés à avoir vos avis et à répondre au mieux à vos attentes. On se demandait si l'horaire et le jour de nos webconférences vous convenaient. C'est pourquoi tout au long de la webconférence, vous avez accès à deux sondages, l'un qui vous permet de sélectionner le jour de la semaine ou les jours de la semaine qui vous conviendraient le mieux, et le second sondage sur les horaires qui vous conviennent le mieux également. À chaque fois, vous avez la possibilité de cocher plusieurs réponses et je remercie d'avance toutes celles et ceux qui prendront le temps de répondre à ces sondages. Donc, ça se trouve dans l'onglet sondage pardon, à droite des vidéos. Alors, revenons donc à notre sujet du jour. Comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître de Matos, qui va y répondre au cours de la webconférence. Donc, nous avons prévu une durée d'environ 45 minutes. Nous essaierons de nous y tenir. Et comme d'habitude, quelques jours après la webconférence, nous vous enverrons la vidéo par email. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions, toujours dans la partie située à droite de la vidéo. Et j'en profite pour remercier vivement ma collègue Marine, qui vous répondra en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître de Matos, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation. Donc, n'hésitez pas pour tout besoin de conseils juridiques. Maître de Matos est à votre écoute. Alors, toutes les questions que vous nous avez envoyées ont été regroupées sous différentes thématiques. Là, vous voyez également le plan de notre webconférence à l'écran. Nous aborderons d'abord le détail du calcul de l'index d'égalité professionnelle. Ensuite, nous évoquerons la publication et la communication de cet index. Et enfin, les sanctions, il faut bien en parler également, en cas de non-publication, de non-communication et de résultats inférieurs à 75 points. Alors, en guise d'introduction, Maître, pouvez-vous nous rappeler pourquoi et quand cet index est-il apparu? Donc, nous rappeler également quelles entreprises doivent le calculer et le publier et quel est l'objectif de cet index.
Je vous remercie, Myriam. Alors, il s'agit effectivement d'un index qui doit être publié aujourd'hui par les entreprises d'au moins 50 salariés, le 1er mars, de manière visible et lisible. Alors, la genèse un petit peu de cet index est assez récente, puisque en fait, ce mouvement a été initié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est entrée en vigueur progressivement. C'est-à-dire qu'on avait posé dans la loi le principe de l'index, mais il s'est appliqué progressivement, c'est-à-dire que depuis le 1er mars 2019, cette obligation concerne les entreprises d'au moins 1 000 salariés. 1er mars 2019, au moins 1 000 salariés. 1er septembre 2019, au moins 250 salariés. Et 1er mars 2020, au moins 50 salariés. Il faut bien le comprendre, d'un outil de parité, dans la mesure où on a mis en place des indicateurs qui permettent sur différents sujets, donc évidemment la rémunération, les écarts de rémunération, mais les questions de promotion, les questions d'augmentation salariale pour notamment les femmes qui ont été en congé maternité, à l'aide de ces outils, on essaye de calculer, d'avoir une espèce de photo précise de la situation entre les hommes et les femmes au sein d'une entreprise. Et la particularité de cet outil, qui est effectivement, comme je le disais, assez récent, c'est que c'est un véritable enjeu de justice dans la mesure où on a souvent évoqué cette espèce de vœu pieux qui consistait à dire qu'il était légitime que dans une entreprise, on ait une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Mais la particularité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sanction. Et cette sanction est assez importante, nous le verrons par la suite. Et on a fait finalement de ce qu'on appelait un vœu pieux, une véritable obligation de résultat. Et en droit, c'est important puisque l'obligation de résultat impose à l'employeur d'atteindre ce résultat. Et à défaut, il est sanctionné. Donc, on n'est plus du tout sur ce qu'on appelle une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on vous donne un objectif, mais vous devez mettre des moyens en œuvre pour l'atteindre. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas sanctionné. Là, au contraire. Et plus le temps passe, et notamment, on en parlera également un petit peu plus tard avec la loi Rixin, plus on renforce, en fait, le scope et l'étendue, on va dire, la portée de ce dispositif. Alors, de quoi parle-t-on précisément? Il s'agit, comme nous l'avons dit, de publier un index. Les entreprises qui sont concernées dorénavant, sont celles qui comptent au moins 50 salariés à la date de la publication, le 1er mars de chaque année. Les entreprises privées sont effectivement concernées, donc les entreprises classiques, on va dire. Il y a aussi les associations, les syndicats qui emploient au moins 50 salariés à la date de publication. La question de l'UES s'est posée. Et on s'interrogeait et on s'est demandé si effectivement il fallait considérer qu'une EES était soumise ou pas à cette obligation. Et évidemment, les précisions du gouvernement nous ont amenés à considérer qu'aujourd'hui, une EES, telle qu'elle existe, donc c'est-à-dire soit parce qu'elle a été reconnue dans le cadre d'une décision de justice ou alors d'un accord collectif, une EES est soumise à l'obligation de publier un index. Et l'effectif qui est pris en considération, c'est l'effectif pour apprécier cette notion de 50 salariés, c'est l'effectif de l'UES. Donc, peu importe les entités qui constituent cette UES, peu importe l'effectif dont elles disposent, toutes ces petites entités, si au final, elles dépassent le cap des 50 salariés, elles sont concernées. Nous avons également les employeurs publics, c'est une particularité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les EPIC, mais également les EHPAD, sont concernés. Et pour le coup, depuis la loi Rixin, donc c'est pour ça que je parlais de renforcement, on nous a également alerté sur le fait que dorénavant, la question de l'égalité homme-femme devait également intervenir au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est-à-dire que les établissements de public de la recherche sont concernés par la publication de cet index. Et on a même été un petit peu plus loin, dans le sens où les établissements scolaires qui disposent de classes préparatoires aux grandes écoles devront dorénavant également publier des statistiques relatives à la répartition des élèves par sexe. Et même la commission des titres d'ingénieur devra prendre en compte les enjeux de l'égalité homme-femme dans ses avis. Donc, c'est pour dire que l'étendue est de plus en plus grande et au-delà de la question des effectifs d'une entreprise, la question de l'index commence à se distiller, à se propager aujourd'hui, même au-delà des entreprises d'une manière générale.
Oui, très bien. Alors, je vais en profiter pour faire un petit point sur les statistiques également au niveau de cet index, puisque comme il doit être publié avant le 1er mars de chaque année, l'avantage, c'est que sur le site du ministère du Travail, on a toujours les chiffres qui sortent aux environs du 8 mars pour la journée de la femme. Et donc, l'année dernière, 80% des entreprises qui devaient calculer et publier leur index d'égalité professionnelle l'ont effectivement publié. Donc, il reste encore une marge de progression puisqu'il reste 20% des entreprises devant remplir cette obligation qui doivent compléter la liste de ces 80% des entreprises. Et nous espérons donc qu'au cours de cette webconférence, nous allons aider certains d'entre vous à remplir cette obligation. Alors, rentrons dans le vif du sujet au niveau du calcul de cet index. Quels sont les différents indicateurs qui sont suivis dans cet index? Existe-t-il des différences de calcul entre les entreprises, en fonction de leur taille notamment? Et enfin, quelle est la répartition des points par indicateur? Je rappelle qu'une note minimale de 75 points doit être atteinte dans le cadre du calcul de cet index.
Alors, c'est tout à fait ça, Myriam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'index en tant que tel est constitué de 4 ou de 5 indicateurs que nous allons lister ensemble. Et la particularité, c'est qu'il est nécessaire d'obtenir effectivement 75 points. Donc, on a sur une base de 100 des points qui sont répartis sur les différents indicateurs. Et selon les méthodes de calcul, il faut arriver au moins au score de 75. Et à titre liminaire, si jamais vous avez du temps, je vous invite vraiment à regarder les annexes 1 et 2 du décret du 8 janvier 2019 où on voit effectivement comment est composé le tableau. Et c'est-à-dire que vous avez une colonne qui présente l'indicateur en question. Vous avez ensuite les méthodes de calcul puisque celles-ci diffèrent en fonction de l'indicateur. Vous avez ensuite une colonne qui explique dans quelle situation on se trouve et en fonction de la situation, le nombre de points. Donc, je le disais concrètement, on a des points qui sont donnés en fonction des indicateurs, sachant que l'effectif de l'entreprise permet en fait de savoir dans quelle catégorie on se trouve. C'est-à-dire que pour les entreprises entre 50 et 250 salariés, on a 4 indicateurs. Le premier est toujours le même. C'est l'écart de rémunération homme-femme. Et là, on a un maximum de 40 points qui peuvent être attribués. Ensuite, on a comme indicateur l'écart de répartition des augmentations individuelles. Il s'agit entre 0 et 35 points qu'on peut attribuer. On a ensuite le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité. Là, ça rappelle cette fameuse obligation qui est de dire que les femmes qui sont en congé de maternité, c'est une obligation légale, hein, c'est dans le code du travail, ne doivent pas être défavorisées et doivent bénéficier des mêmes augmentations que les autres salariés qui sont sur des postes équivalents. Donc là, on a soit 0, soit 15. C'est-à-dire que soit l'entreprise, elle remplit la condition et elle a 15 points, soit ce n'est pas le cas et elle tombe tout simplement à 0. Dernier indicateur pour ce type d'entreprise, c'est la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Et là, l'éventail de points va entre 0 et 10. Ça, c'est pour les entreprises, on a dit, entre 50 et 250 salariés. Pour les entreprises au-delà de 250 salariés, on a un indicateur supplémentaire qui est celui de l'écart de répartition des promotions. Et donc, ça, forcément, ça redistribue, on va dire, le nombre de points, puisque là, sur le premier, on est toujours entre 0 et 40. Sur le deuxième, on est plutôt 0,20. Sur celui-ci, on est 0,15. Et petite précision, on entend par promotion le franchissement d'un niveau ou d'un coefficient supérieur. Pour ce qui était du nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, on est toujours sur soit 0, soit 15. Et enfin, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, 0 et entre 0 et 10. Donc, toujours bien déterminer effectivement quel est votre effectif pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, de manière à bien identifier les indicateurs qui vous concernent. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, on rebascule sur l'autre colonne qui est la méthode de calcul. Et comme je vous le disais, les méthodes de calcul diffèrent en fonction de l'indicateur concerné. Par exemple, le premier, qui est celui relatif aux rémunérations, on va avoir des tranches d'âge et une répartition par tranche d'âge et par poste équivalent. Forcément, cette méthode de calcul n'est pas pertinente par rapport à l'indicateur qui concerne l'augmentation des femmes qui sont de retour de congé maternité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à ce fameux tableau et bien regarder quelle est la méthode de calcul qui va être retenue. Un autre sujet aussi qui est important lorsqu'on est sur ces questions d'indicateurs, c'est que d'une manière générale, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tous les indicateurs ne sont pas nécessairement calculables. Vous pouvez être dans une situation où, certes, vous êtes soumis à l'index, mais vous ne pouvez pas avoir de données sur vos indicateurs. Par exemple, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir des données sur 12 mois consécutifs. Admettons que vous ayez passé le cap des 50 salariés et vous êtes concerné, on va dire, peut-être au mois de novembre de l'année précédente, mais pour autant, vous étiez une entreprise qui s'est créée de manière récente. Là, vous n'avez pas suffisamment de données à conserver pour l'indicateur en question. Autre point important, c'est qu'en général, on prend en considération les salariés qui ont 6 mois de présence, alors continue ou discontinue, mais dans l'entreprise. Donc, si vous n'avez pas de salariés concernés, vous n'avez pas d'indicateur. Et le cas échéant, ce qui se passe, c'est que les autres indicateurs sont calculés et on fait ce qu'on appelle on applique la règle de la proportionnalité pour voir si au total, on était ou pas sur la base des 75. On va dire virtuellement, si c'est le cas, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, attention, puisque là, évidemment, vous ne bénéficierez pas de cette règle de la proportionnalité et il faudra s'expliquer sur les raisons qui ont amené cette situation, notamment auprès du CSE et de la CRIT. Donc, surtout, ne pas considérer, et ça, c'est peut-être l'écueil de certaines entreprises, parce que je n'ai pas d'indicateur, je ne peux pas le calculer, je suis exonérée. Absolument pas. Et au contraire, vous avez, et c'est la particularité de cette loi, c'est que vous êtes quand même soumis à l'obligation de publier les indicateurs calculables. Vous devez transmettre les informations et les résultats au CSE, également en informer l'administration, voire se couvrir par un accord collectif ou à défaut un plan d'action. On ne vous entend pas, Myriam ? Voilà. Non? Vous entend pas. Enfin, vous êtes toujours en mute. Votre micro est coupé. Nous rencontrons, je crois, un petit problème technique qui devrait être résolu rapidement. Navré. Donc Myriam s'est déconnectée, je pense qu'elle va nous rejoindre très rapidement. Ça arrive, hein. Ce sont, on va dire, les aléas du direct.
Alors, est-ce
que vous êtes avec nous ?
Oui. Alors, c'est mon micro-casque qui ne fonctionnait plus. Désolée. Nous en étions… ce que je souhaitais ajouter, c'est que l'une des personnes présentes à la webconférence parlait justement d'un indicateur qu'ils étaient incapables de calculer, puisque aucune femme n'était partie en congé maternité. Donc, il suffit juste de passer la question. Et ça, en tout cas, ça ne doit pas bloquer, enfin, ça ne doit pas empêcher l'entreprise de calculer son index.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments objectifs qui sont indépendants de la volonté d'une entreprise, mais qui font que, par définition, l'indicateur n'est pas calculable. Et ça, c'est l'exemple classique. S'il n'y a pas eu de départ en congé, enfin, il n'y a pas eu de départ, et même, donc, il n'y a pas eu du tout de retour durant la période de référence, le cas échéant, l'indicateur n'est pas calculable. Mais pour ne pas pénaliser, c'est pour ça qu'on applique cette fameuse règle de la proportionnalité pour voir si, en théorie, on est dans les clous. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ne permettra pas d'exonérer. Mais ça veut dire que lorsque c'est le cas, ça veut dire que sur les autres indicateurs, on a un sujet. Parce qu'en principe, s'il y a c'est une sorte de neutralisation d'un indicateur non calculable, les autres, si les autres sont au niveau, normalement, on ne devrait pas avoir de difficulté. Si malgré ça, on est en dessous des 75 points, c'est qu'on a un autre sujet sur un autre indicateur.
Oui, très bien, merci. Alors, on va parler maintenant des effectifs qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'index. Les intérimaires, par exemple, doivent-ils être intégrés au calcul La prise en compte de ces effectifs est-elle la même pour tous les indicateurs, pardon.
Alors, c'est un point assez intéressant puisque effectivement, on n'a pas du tout la même appréciation pour ce qui est des effectifs et pour ce qui est des indicateurs. Pour ce qui est des effectifs, donc on apprécie effectivement, enfin, on part du postulat qu'on retient l'application des critères, on va dire, qui sont classiques sur la base d'une période de référence annuelle qui va être choisie par l'employeur. Ceci étant, on a effectivement exclu certaines catégories. Donc, les apprentis, les contrats de professionnalisation. La petite particularité, et ça, c'est une précision qui nous a été donnée par le gouvernement, notamment pour les salariés, par exemple, contrat de professionnalisation qui ensuite bascule en CDI, on prendra en compte le CDI. En revanche, la période du contrat de professionnalisation, non. Donc, même s'il y a une reprise d'ancienneté, ça ne fonctionnera pas. On exclut également les salariés qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure et on considère donc que les intérimaires qui sont mis à la disposition par les entreprises de travail temporaire sont exclus. On exclut également les expatriés, les salariés absents plus de la moitié de la période de référence. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, la condition, c'est d'avoir des données sur 12 mois consécutifs, mais c'est aussi que les salariés soient présents au moins 6 mois, continus ou non, dans l'entreprise. Donc, si on n'a pas 6 mois, ces salariés-là ne sont pas pris en considération. Donc, la question qu'on va systématiquement se poser, c'est de savoir à la date butoir si, notamment pour ces salariés-là, est-ce qu'ils ont passé 6 mois ou pas dans l'entreprise. Si c'est le cas, on les prend en considération. À défaut, ils seront exclus. Autre point, autres salariés, on va dire, exclus, ce sont les salariés qui sont en pré-retraite. Certes, ils font partie des effectifs, mais ils ne sont pas présents, on va dire, de manière effective. Et également, congé maladie, maternité, sans solde, ou, et ça, c'est un point important compte tenu des circonstances actuelles, les salariés qui sont en activité partielle pour la période où ils vont être absents. Donc là, encore une fois, on rebascule, on prend en considération, enfin, il faut faire cette espèce d'articulation et on va dire de distinction entre les salariés qu'on prend en considération ou les périodes qu'on prend en considération et le reste. Attention au niveau d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de chaque entreprise qui constitue une entité légale. Si on a plusieurs établissements, le calcul se fait au niveau de l'entreprise et non de l'établissement. Lorsqu'on est en présence d'un groupe, le cas échéant, ce qu'on va prendre en considération, c'est le niveau de chaque entreprise qui va composer le groupe. Donc, bien veiller, encore une fois, à être sur le bon niveau d'appréciation. Dernier point, je vous donne un exemple qui revient assez souvent. Les entreprises qui ont été créées, par exemple, en juillet 2019 et qui doivent publier leur index au 1er mars 2020, si à cette date, elles ont 1er mars moins de 50 salariés, au moins là, pour le coup, elles sont considérées. Après, toute la question et tout l'enjeu sera de savoir si effectivement, elles ont suffisamment de données à produire pour les calculateurs.
Très bien, merci beaucoup. Alors, parlons maintenant des éléments de rémunération à prendre en compte. Tout ne rentre pas non plus dans le calcul. Pouvez-vous nous préciser un peu les choses ?
Alors, l'idée pour moi, enfin en tout cas le prisme au travers duquel je vois ça, c'est le fait que ce qu'on doit prendre en considération, c'est ce qui est donné au salarié en contrepartie de son travail. Ce qui permet, quand on part de ce postulat-là, de pouvoir faire un petit peu le tri. D'une manière générale, salaire de base, évidemment, est pris en considération. Tout ce qui va être les accessoires indirects ou directs, en espèces ou en nature, à raison de l'emploi sont pris en considération, les avantages en nature ou par exemple l'indemnité ou le crédit de déplacement qui est l'équivalent en espèces de l'avantage tiré d'une voiture de fonction qui peut être utilisée à des fins personnelles, tout ce qui va être aussi primes collectives mais qui sont attribuées à tous les salariés peu important, on va dire, leur poste. Il ne faut pas effectivement que la prime en question dépende du poste de travail. Le cas échéant, elle sera exclue. Si ce n'est pas le cas, on la prend en considération. La prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, la PEPA, là, pour le coup, elle n'est pas liée au poste de travail. Donc, on la prend en considération. Tout ce qui va être bonus, commission, prime sur objectif, le cas échéant, elles sont prises en considération. Mais attention, si elles sont versées de manière effective, si on a des bonus, des commissions ou des primes de quelque nature que ce soit qui sont, on va dire, théoriques, mais qui vont être versées sur un autre exercice, elles ne seront pas prises en considération. Les indemnités de congés payés, qui sont rattachées au salaire, le cas échéant, également prises en considération. Par définition, on va exclure les majorations, des heures travaillées, par exemple, qui vont être réalisées un jour férié ou, par exemple, les majorations pour travail réalisé le dimanche. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est en contrepartie du travail, donc finalement, ça devrait être inclus. Oui, mais c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation classique de travail. Donc là, on va prendre en considération l'heure dans la première catégorie, donc on admet. En revanche, pour ce qui est de la majoration, on va exclure. Tout ce qui va être aussi indemnité de rupture, parce que là, pour le coup, on est sur la rupture d'un contrat de travail, donc on n'est pas du tout en contrepartie du travail. On vient indemniser la rupture. C'est le cas, par exemple, des indemnités de licenciement, du préavis, du départ en retraite. Ça, toutes ces indemnités de cette nature-là ne sont pas prises en considération. Les primes également. Primes d'ancienneté, par exemple, puisque là, vous vous rappelez ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce n'est pas lié au poste de travail, c'est lié à la personnalité du salarié. Donc, on exclut. De la même manière, les primes qui sont liées à une sujétion particulière, par exemple, les primes de salissure, les primes de froid, là encore, ce n'est pas le poste en question, mais ce sont les conditions d'exercice. Donc, on exclut. On va exclure également tout ce qui va être versé au titre de l'intéressement et de la participation. Les éléments aussi qui sont versés dans un CET, ça c'est une précision notamment du gouvernement, dans la mesure où l'identification des sommes et leur source est difficile à faire, on considère que par définition, on va exclure tout ce qui est également action, stock option ou compensation différée d'action, parce qu'elles correspondent à un gain qui est lié à la qualité d'actionnaire et non de salarié, seront également exclus.
Très bien. Et donc, pour préciser à certaines personnes qui posaient la question sur le chat, oui, les primes d'ancienneté sont bel et bien exclues aussi.
Tout à fait.
Donc, la période de référence maintenant est-elle forcément la même d'une année sur l'autre et peut-elle être révisée?
Alors, la période de référence, à titre liminaire, c'est la période sur laquelle on va apprécier les indicateurs. Elle est choisie librement par l'employeur. Il n'est absolument pas obligatoire de retenir une année civile. Ce qu'il faut, c'est que ça couvre une période de 12 mois. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, que ça s'arrête avant, enfin, ou au 31 décembre de l'année N-1 pour une publication des indicateurs sur l'année N. Ça, ce sont les deux critères fondamentaux de base. Une fois qu'on a ça et qu'on a pris ces éléments en considération, à partir de là, l'employeur est libre de définir la période de référence qu'il choisit. En revanche, une fois qu'il a défini une période de référence, il ne peut pas la changer d'une année pour l'autre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'à un certain moment, l'employeur choisisse une année de référence qui lui convient, enfin une période de référence qui lui convient, qui lui est favorable, et que l'année suivante, il rechange parce que la période de référence ne lui est plus favorable. Dès lors qu'on s'engage sur une période de référence, d'une année sur l'autre, on ne peut pas modifier. Sauf circonstances exceptionnelles du type changement dans la constitution de l'UES, on va dire vente ou acquisition de l'entreprise. Là, pour le coup, c'est possible, mais on est dans des cas d'exception. Et attention, il faudra absolument justifier de ce caractère exceptionnel auprès de l'administration, et notamment de la DRIT.
Oui, en effet, l'intérêt du calcul de cet index, c'est de pouvoir effectivement
avoir un suivi,
le comparer d'une année sur l'autre.
Et si exactement.
Des références diverses.
Exactement. Si on permet de moduler d'une année sur l'autre, finalement, on permet une espèce de modulation en fonction de ses intérêts propres et de ses circonstances, et on n'a pas de traçage. Donc, c'est pour ça que, on va dire que c'est un petit peu contraignant, mais pour autant, ça permet quand même d'avoir une visibilité qui est au plus près de la situation de l'entreprise.
Très bien, merci beaucoup. Alors, dans quel cas l'employeur doit-il obligatoirement consulter le comité social et économique, donc le CSE, au sujet du calcul de l'index?
Alors, on le disait tout à l'heure quand on évoquait la question des indicateurs. En fonction de l'indicateur en question, on a des méthodes, des clés de répartition, on va dire, spécifiques. Pour ce qui est de l'indicateur relatif aux écarts de rémunération, donc le premier, on a ce qu'on appelle des tranches d'âge, donc c'est-à-dire moins de 30, 30, 40, 40, 50 ou supérieur à 50. Et à côté de ça, on fait une appréciation par poste équivalent. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Enfin, on va dire la question du poste équivalent. Il n'est pas du tout obligatoire pour l'employeur de se conformer notamment à ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles qui sont définies notamment par l'INSEE, c'est-à-dire ouvriers employés, ensuite on a techniciens, agents de maîtrise et on a les cadres. Il y en a quatre, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Ce n'est pas une obligation et l'employeur a parfaitement la possibilité, après consultation du CSE, de répartir les salariés par niveau de coefficient hiérarchique, notamment en application de la classification de branche ou une autre méthode de cotation de poste. C'est possible. C'est là où intervient la consultation du CSE et c'est une vraie consultation dans la mesure où il est nécessaire de recueillir un avis du CSE. Si finalement, pour des raisons qui lui sont propres, l'employeur ne souhaite pas recourir à, enfin en tout cas modifier, et en tout cas recourir à ces types de méthodes de cotation, il peut tout simplement, comme je l'indiquais, recourir au CSP, sachant que il peut, en fonction des circonstances, également, on va dire, fusionner certaines catégories socioprofessionnelles, par exemple prendre cadre, non cadre. En fonction de sa situation, hein. Peut-être que dans son entreprise, il n'a pas forcément d'ouvrier, d'employé, de technicien ou d'agent de maîtrise. Donc ça, on tolérera parce que finalement, ce n'est qu'une émanation, entre guillemets, des quatre catégories. En revanche, il n'est pas question notamment d'utiliser des méthodes de cotation qui vont retenir d'autres critères que ceux que nous avons évoqués, de manière à ce qu'on reste sur des critères qui sont objectifs.
Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, une question très précise, et on va essayer d'accélérer parce que l'heure tourne, c'est un cauchemar. Une question précise qui nous a été envoyée par une de nos internautes à propos d'une fusion, du rachat d'une société. Voici la question telle qu'elle nous l'a soumise. La société A a absorbé la société B au 31/10/2021. Comment devons-nous déclarer l'index sur chacune des entités? Et plus généralement, du coup, le ministère du Travail a-t-il prévu des personnes à contacter pour aider les entreprises à calculer leur index?
Alors, c'est une question un petit peu, on va dire, sensible, dans la mesure où, d'une manière générale, dans ce type de situation, l'opération corporate, en fait, va avoir des conséquences sur l'appréciation, on va dire, en social et notamment en droit du travail, sur ce qu'on fait des contrats et donc ce qu'on fait avec l'index. Si, par exemple, on est sur ce qu'on appelle des fusions, absorptions classiques type acquisition avec ce qu'on appelle des TUP, des transferts, des transmissions universelles de patrimoine, ça implique d'un point de vue social, en tout cas en droit du travail, le 12-24-1, c'est-à-dire le transfert automatique des contrats de travail. Le cas échéant, ça voudrait dire que la société A a récupéré tous les contrats de travail de la société B. Donc, certes, on va dire, d'un point de vue concret, les salariés qui sont arrivés ont moins de 5 mois, puisque l'opération manifestement a lieu le 31 octobre 2021. Pour autant, ils récupèrent, la société a tout récupéré comme si elle était l'employeur depuis le début. Donc, c'est pour ça que c'est assez spécifique. Je dirais que dans ce type de situation, il y a deux écoles. Soit on considère que l'entreprise A n'a pas les 5 mois et donc elle a des calculs, elle a des indicateurs qui ne sont pas calculables. À mon sens, il faut être un petit peu plus prudent dans la mesure où la société A finalement devient l'employeur des salariés de la société B et elle est censée être l'employeur depuis le départ. Donc, si on a un doute, peut-être, à mon sens, le réflexe, c'est éventuellement d'en référer à la DRITS, puisqu'on a des références spécifiques au sein des DRITS qui sont chargées d'accompagner les entreprises sur la mise en place de l'index. D'une manière générale, il y a tout un panel de mesures qui ont été mises en place par le ministère pour accompagner les entreprises. Il y a notamment le simulateur calculateur en ligne. Il y a aussi des tableaux Excel qui sont extrêmement riches en informations et en outils de présentation. On a des stages. On a également une plateforme. Et on a ces fameux référents. Donc, si on a un doute, pourquoi pas tout simplement en référer à cette personne-là, parce qu'encore une fois, vraiment, l'opération corporate, elle est fondamentale, sa nature et ses conséquences sur la question, en tout cas la situation. Si on n'est pas sur une fusion-acquisition classique, ça veut dire que, par exemple, c'est la question des rachats de titres. La société A et la société B coexistent. Et là, pour le coup, à mon sens, si les deux sont au-dessus de 50, bah, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire qu'il y a publication de l'index et ensuite, on applique les calculateurs. Et c'est encore plus le cas si, au final, elle constitue une ES. Donc, à voir comment on apprécie les éléments de fait et surtout, en cas de doute, ne pas hésiter à en référer ou en tout cas à utiliser les outils qui sont à notre disposition pour ce faire.
Très bien, merci. Effectivement, on trouve énormément d'informations sur le site du ministère du Travail. Vous avez énormément de liens vous permettant d'avoir accès au calculateur. Et je crois qu'un de nos internautes l'a partagé tout à l'heure dans le chat. Un grand merci à lui, d'ailleurs, au passage. Alors, en cas de résultat inférieur à 75 points, hein, donc on rappelle que la barre est haute en termes de moyenne de calcul de cet index, puisqu'on doit obtenir 75 points sur 100, l'employeur donc doit-il fournir un plan d'action ?
Alors, effectivement, ce qui se passe quand on arrive, quand on est dans la situation où on n'atteint pas, on va dire, la barre fatidique des 75 points, on a un délai déjà de 3 ans, il faut le savoir, pour se mettre en conformité, sachant que ce délai peut même être augmenté d'un an supplémentaire. Donc, l'idée, c'est que vous n'allez pas être sanctionné tout de suite si, encore une fois, vous faites les efforts pour vous mettre en conformité. Et notamment, dans ce qu'on appelle faire les efforts pour se mettre en conformité, il y a effectivement l'obligation, notamment dans le cadre de la négociation obligatoire, de mettre en place des mesures adéquates et de correction et un plan d'action de manière à ce que chacun, de manière à faire en sorte que les indicateurs, et en tout cas que la note maximale de 75, enfin la note minimale plutôt de 75% soit atteinte. Vous avez quelques exemples hein, de mesures correctives. En quelques mots, je dirais par exemple modifier les grilles de classification, les ajuster entre les hommes et les femmes, développer la formation professionnelle continue. Un point très important qu'on a relevé, notamment pour ce qui est du travail à temps partiel, on a constaté dans un certain nombre d'entreprises que c'était ce qu'on appelait du temps partiel subi. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que les femmes qui sont visées par ce temps partiel pour des raisons spécifiques et qu'ils le subissent, notamment sur des postes type de caissière ou d'hôtesse d'accueil, faire en sorte qu'on ne soit pas dans ce type de situation, les aider à basculer, pourquoi pas, sur un temps complet et réformer également les pratiques de recrutement de manière à ouvrir le scope sur des postes à responsabilité aux femmes. Donc, encore une fois, il y a un délai, on demande des mesures, en tout cas correctives, adéquates, en fonction de la situation de l'entreprise, pour être en conformité, sachant que les indicateurs doivent être mentionnés et la note sur le site et à défaut de site internet, il faut que ce soit porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Donc, le point est important dans la mesure où il faut qu'il y ait une certaine transparence. Je pense que c'est vraiment le point fondamental de toute cette législation. L'idée, c'est que l'information existe, certes, mais elle est publiée. Donc, il faut transmettre, et même si vous n'êtes pas dans les clous, vous devez absolument le publier. Et comme je l'indiquais, ce qu'on regarde à la fin des fameux délais qui sont donnés pour la mise en conformité, c'est est-ce que ou pas l'employeur a finalement réussi à dépasser cette fameuse barre des 75 points. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, attention, puisque là, le risque en question, c'est un risque de pénalité financière, au moins de 1% des rémunérations soumises aux cotisations sociales versées au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai. Et sachant que c'est la DRITS qui mène la procédure et c'est la DRITS, qui a la possibilité ou pas d'ajuster en fonction des efforts qui ont été fournis par l'entreprise. Donc, la sanction existe, c'est pour ça que c'est une obligation de moyens. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, ne pas considérer que c'est sans risque dans la mesure où, au contraire, oui, on va vous donner des moyens et on va vous aider à atteindre l'objectif, mais attention si vous ne le faites pas dans les délais qui vous sont impartis.
Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, je suis désolée, on a pris du retard parce qu'on a essayé de compléter certaines réponses. Et puis, il y a eu mon petit souci technique de tout à l'heure dont je m'excuse de nouveau. Je suis désolée, on va déborder un petit peu. Pour ceux qui doivent partir, je vous rappelle, on vous envoie de toute manière le replay derrière, dans les jours à venir. Alors, concernant la publication et la communication de l'index, où cet index doit-il être publié et à qui les entreprises doivent-elles le communiquer ?
Alors, aujourd'hui, la publication se fait sur le site internet. On parle d'une publication qui est visible et lisible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre ça dans un coin du site ou sur un fil d'actualité tout en bas du fil d'actualité. Non, il faut que ce soit absolument visible, lisible, je dirais même tout simplement accessible, de manière à ce qu'on sache quelle est la note de l'index qui a été attribuée à l'entreprise. Il faut que cette publication se fasse avant le 1er mars 2020, donc raison pour laquelle vous disiez tout à l'heure, Myriam, que les employeurs qui sont concernés ont encore une trentaine de jours, un peu moins maintenant, pour se mettre en conformité. Sachant que parallèlement, il faut que la communication se fasse également auprès du CSE et également auprès de l'inspection du travail, et notamment communiquer le lien du site internet vers lequel les résultats ont été publiés.
Alors oui, Laetitia, effectivement, vous avez commis un tout petit lapsus. Vous avez parlé de 2020 puisque c'était une partie de la mise en place de la loi. Il s'agit bien de mars 2022, effectivement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et pour répondre à Sandrine, que je vois son chat apparaître à l'instant, s'il n'y a pas de site internet, en fait, tout moyen de communication auprès des salariés est valable, mais il faut que ce soit communiqué impérativement.
C'est tout à fait ça. On retiendra ce qu'on appelle l'obligation, c'est de la communication par tout moyen. Donc, ça peut être de l'affichage, ça peut être de l'intranet, ça peut être également tout simplement des courriels qui sont envoyés à tous les salariés. L'important, c'est que la publication, la communication se fasse.
Et que vous puissiez apporter, en cas de contrôle de l'inspection du travail,
qu'elle a été faite.
Une preuve que ça a été effectif. Alors, le décret numéro 2021-265 du 10 mars 2021 et la loi Rixin, publiée le 24 décembre 2021, ont apporté des modifications à la publication et à la communication de l'index. Certaines d'entre elles sont applicables dès cette année. Quelles sont-elles ?
Alors, dès cette année, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de renforcement, notamment en matière de publication et je dirais même d'efficacité du dispositif, dans la mesure où aujourd'hui, l'obligation de publication porte désormais sur l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, alors que précédemment, il s'agissait uniquement de la note globale qui était obtenue au titre de l'index. Donc là, il s'agit tout simplement de renforcer la transparence de manière à ce qu'on n'ait pas juste la note et que la note en question occulte en fait une certaine situation dans l'entreprise. Dès lors que les indicateurs doivent être publiés, on a au moins une photo, ce que je disais tout à l'heure, cette fameuse photographie de la situation de l'entreprise de manière claire. C'est la disposition phare de la loi et qui est entrée en vigueur puisqu'il n'y avait pas de précision. En revanche, et ça, c'est, je dirais, encore une fois, peut-être le petit écueil, c'est qu'il y a d'autres dispositions qui sont extrêmement fortes sur la question de l'index et sur le renforcement de l'efficacité du dispositif. C'est la publication en interne et en externe des mesures de correction et des objectifs de progression de chaque indicateur selon des modalités qui sont définies en décret. Et on attend toujours les décrets. Et aujourd'hui, la publication doit se faire sur le site internet ou alors, comme on a dit, dans l'entreprise par tout moyen, mais également sur le site du ministère chargé du travail, dans des conditions, encore une fois, à déterminer par décret. Donc, on est toujours dans l'attente de ces fameux décrets. On espère qu'ils arriveront vite, dans la mesure où là, pour le coup, alors je ne sais pas si ça arrivera avant le 1er mars 2022, je ne pense pas. Ou en tout cas, je pense qu'on va peut-être faire un moratoire de manière à faire en sorte de laisser le temps aux entreprises pour qu'elles se mettent en conformité. Mais en tout cas, attention, les objectifs sont posés dans la loi, ils sont extrêmement forts. Encore une fois, sur la question de la publication et ce qu'on doit publier. L'objectif, en tout cas le mouvement, c'est on renforce, on élargit et encore une fois, on rend le dispositif réellement efficace.
Très bien, merci beaucoup. Effectivement, les décrets d'application qui tardent, c'est notre lot
quotidien.
Quotidien, oui. Alors, une autre question envoyée par une de nos internautes qui est élue de CSE. L'employeur a-t-il l'obligation d'expliciter son mode de calcul de l'index dans la BDES ? Et si oui, quel article de loi le stipule ?
Alors, l'article D, 1142-5, alinéa 1er et 2e, qui effectivement impose à l'employeur d'expliciter le mode de calcul dans la BDES. En fait, les indicateurs ainsi que le niveau de résultat sont mis à la disposition du CES selon la période qui est fixée. Encore une fois, dans la BDES. Et surtout, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les résultats sont présentés par catégorie socioprofessionnelle, niveau coefficient, ou selon les niveaux, ou en tout cas la méthode de cotation qui aura été retenue par l'employeur. Et surtout, il faut que toutes les précisions utiles à la compréhension, notamment sur la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socioprofessionnelle ou les niveaux de la méthode de cotation, soient expliquées au CSE. Donc, au-delà du fait qu'il y ait une obligation d'information, il y a surtout cette obligation qui est de donner en fait toutes les clés au CSE de manière à ce qu'ils comprennent ce qui a été fait, la méthode qui a été retenue et ensuite le résultat obtenu.
Très bien, merci beaucoup. Alors, nous en venons à notre dernière partie sur les sanctions. Donc, quelles sanctions sont encourues en cas de non-publication de l'index sur le site prévu par le ministère du Travail? Donc, c'est index-egapro.travail.gouv.fr.
Alors, non-publication, non-communication, j'insiste sur les deux parce que, encore une fois, l'idée, c'est que l'obligation, elle est de publier, mais elle est de communiquer aussi, n'oubliez pas, en interne. Sur ces deux éléments, lorsqu'on a un employeur défaillant, la sanction, c'est la pénalité financière. Alors, attention, on l'a précisé, c'est une pénalité de 1% au plus. Donc, il y a décision de la DRIT, puisqu'elle peut, en fonction de la situation, ajuster le curseur. En tout état de cause, la pénalité que risque l'employeur est celle-ci, sachant que cette pénalité peut être également appliquée aux entreprises bénéficiaires d'un plan de relance en l'absence de fixation d'objectifs de progression pour chacun des indicateurs ou en l'absence tout simplement de publication de ces objectifs et des mesures de correction qu'elles ont dû définir. Donc, ne pas croire qu'on peut s'exempter assez facilement de l'obligation puisque la pénalité est quand même assez lourde. Donc, bien veiller, je dirais, à se mettre en conformité avec les obligations qui, aujourd'hui, sont celles des employeurs.
Très bien, merci beaucoup. Et alors, en cas de non-communication au CSE et donc plus généralement aux salariés, les sanctions sont-elles les mêmes ?
Alors, je dirais que le cas échéant, c'est pour ça que j'insistais sur non-publication et non-communication. Effectivement, quand on est dans un cas de non-communication, on risque cette fameuse pénalité. Mais, et surtout lorsqu'on est sur de la non-transmission ou de la non-communication vis-à-vis du CSE, moi, je n'oublierai pas non plus cette question du délit d'entrave. Puisque, je le disais, sur la pénalité, on a quand même une DRIT qui est en tout cas à la manœuvre, dans le sens où la pénalité est au plus de 1%, mais la DRIT peut l'ajuster en fonction de la situation. Lorsqu'on est dans un cas de délit d'entrave, on saisit le juge et c'est le juge qui statue, sachant qu'en plus, on peut avoir des procédures en référé, donc ce qui veut dire que ça va vite et la sanction tombe assez rapidement. À la différence de la procédure en matière de pénalité, où là, on est sur une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on va avoir la DRIT qui va demander des explications, l'employeur peut répondre et la procédure dure un certain temps et c'est au terme de cette procédure-là que la DRIT va prendre une décision. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a cette pénalité financière, mais moi, je n'oublierai pas non plus cette question notamment du délit d'entrave vis-à-vis du CSE.
Oui, tout à fait. Effectivement, le délit d'entrave, on en revient souvent à en parler.
Les basiques.
Alors, c'est ça. Alors, dernier cas de sanctions possibles, les résultats inférieurs à 75 points. Jusqu'où les sanctions peuvent-elles aller?
Alors, là encore, en cas, on va dire, de mauvais résultats persistants, et je dis bien persistants parce que rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'employeur qui est défaillant, il a quand même 3 ans pour se mettre en conformité, voire 1 an supplémentaire. Donc, quand on est dans une situation où on parle effectivement de mauvais résultats persistants, le risque pour l'employeur, c'est la pénalité d'1%. Et je dirais, attention, parce que lorsqu'on est dans une situation où on est en absence, par exemple, on n'a pas d'accord ou de plan d'action ou de publication des écarts de rémunération ou des mesures de correction, là aussi, on a le risque de pénalité de 1%. Pourquoi j'insiste ? Parce qu'on s'est interrogé de savoir si le cumul de ces sanctions était possible, c'est-à-dire si un employeur pouvait se voir appliquer la pénalité de 1% parce qu'il il y a des résultats mauvais qui sont persistants et par ailleurs parce qu'il y a une absence d'accord. Aujourd'hui, la position de l'administration, c'est de dire que le cumul est possible, donc attention, pour les employeurs qui se sont vus appliquer une pénalité pour absence d'accord, puis pour mauvais résultat. L'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que si on est un employeur qui a d'abord des mauvais résultats, enfin, persistants et ensuite absence d'accord, là, il n'y a pas de cumul. Mais vous pouvez retrouver dans une situation où vous allez avoir deux sanctions avec deux pénalités de 1% si effectivement vous êtes dans la situation absence d'accord et ensuite mauvais résultat. Donc, vous voyez qu'à la fin, ça peut coûter très cher et qu'on peut se retrouver facilement dans une situation où on est sanctionné. Encore une fois, l'objectif de tout le dispositif, c'était de faire en sorte qu'on force l'employeur à faire le calcul, donc c'est-à-dire évaluer sa situation en interne, à la publier dans un souci de transparence et on sanctionne quand il n'est pas, on va dire, quand il est défaillant. Et encore une fois, cet exemple du cumul des sanctions montre à quel point on a donné de l'importance à ce dispositif en faisant en sorte qu'un cumul de sanctions soit possible.
Très bien, merci beaucoup, maître. Voilà, alors on termine avec
un petit peu de retard.
Presque un quart d'heure de retard, toutes nos excuses. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. Et n'oubliez pas donc que vous avez jusqu'au 1er mars pour calculer et publier votre index d'égalité professionnelle. Je vous invite vivement à lire notre dossier sur le sujet. Marine vous a déjà transféré le lien par chat un petit peu plus tôt. N'hésitez pas à contacter Maître De Matos, dont je vous redonne les coordonnées à l'écran. Elle pourra vous donner des conseils complémentaires. Alors, une petite requête me concernant. Nous sommes vraiment très attachés à recueillir votre avis. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des débats sur les horaires entre l'île de la Réunion et la Martinique. Et là, effectivement, on a un espèce de grand écart horaire qui risque d'être un petit peu compliqué à voir. Mais bon, en fonction des réponses, on verra, on fera peut-être certaines webconférences à certains horaires et certaines autres à d'autres. Le sondage, donc vous pouvez encore continuer à y répondre, sera soumis encore une fois à la prochaine webconférence également. Alors, concernant vos avis, Marine vous transmet également un lien qui vous permettra de nous donner votre avis sur cette webconférence. Merci d'avance à ceux qui le feront, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, vous avez encore des questions sur les sujets, ou si d'ici quelques jours, une question vous venait à l'esprit, vous pouvez poser, je vous le rappelle, votre première question gratuitement à nos juristes. Ils vous rappelleront très rapidement. Normalement, c'est même dans la journée. Là encore, Marine vous transmet le lien via la fenêtre de chat. Pour tous les élus de CSE, les délégués syndicaux et plus généralement les représentants du personnel, j'anime un groupe privé sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis moi-même déléguée syndicale et secrétaire du CSE de Jury Travail et on essaye de créer une petite communauté autour de nos problématiques d'élus. C'est un groupe bienveillant qui attend avec impatience votre inscription. Enfin, je vous donne rendez-vous donc pour nos deux prochaines webconférences en février et en mars. Donc, la prochaine webconférence aura lieu le mardi 15 février à 14h. Nous y évoquerons les obligations fiscales des entreprises. Donc, cette webconférence s'adresse principalement aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux responsables administratifs et financiers. Et nous aurons le plaisir de retrouver Maître Rania Fawaz, avocate au barreau de Paris, qui animera cette webconférence avec moi. Donc, Marine vous a transmis le lien d'inscription dans le chat. La première webconférence du mois de mars aura lieu donc le 1er mars, donc bloquez la date dans vos agendas. Nous y aborderons les contrôles de l'inspection du travail et nous vous aiderons à y faire face parce que c'est toujours un moment un petit peu délicat à vivre. Et pour chacune de ces deux webconférences, je vous rappelle qu'on met à votre disposition un formulaire de questions. N'hésitez vraiment pas à le remplir. C'est un petit peu ce qui fait aussi le contenu de ces webconférences et ce que vous y apportez avec vos questions, et c'est très important pour nous. Voilà, donc merci encore, Maître De Matos, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi, et j'espère à très bientôt.
Je vous en prie, avec plaisir, Mariam. À très bientôt, bien sûr. Merci à tous.
Et merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Encore désolée pour le retard. Au revoir et à très bientôt.
Au revoir.